à retourner en Égypte avec Benjamin, le cadet de la famille. Lors du premier voyage, ils ont été accusés d'espionnage par Joseph, leur frère devenu gouverneur d'Égypte, et qu'ils n'ont pas reconnu. Il faut dire que bien des années se sont écoulées depuis que Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Bien des années se sont écoulées depuis qu'ils ont fait croire à leur père Jacob que Joseph avait été déchiqueté par des bêtes sauvages. En réalité, ce sont environ 20 ans qui se sont écoulés. Joseph était à l'époque un jeune homme. Il est maintenant un homme d'âge mûr. Il s'est égyptianisé en apparence et il est donc méconnaissable pour ses frères, à qui il a pris soin de s'adresser par l'intermédiaire d'un interprète afin de ne pas se dévoiler, afin de ne pas éveiller les soupçons. Joseph, en reconnaissant ses frères, décide de ne pas leur révéler qui il est, mais de les mettre à l'épreuve. Et c'est ainsi qu'il garde ses distances. L'heure n'est pas encore au dévoilement. Le test qu'il met en place ne fait que commencer. L'accusation d'espionnage qu'il porte contre eux fait partie du stratagème qu'il met en place pour les éprouver, pour voir s'ils ont changé, pour voir s'ils sont maintenant dignes de confiance. Et c'est ainsi que Joseph fait mettre Siméon en prison, en attendant que ses autres frères reviennent pour prouver leur bonne foi avec le plus jeune frère manquant, Benjamin, le cadet. Et c'est ainsi que Ruben et ses frères retournent en Canaan sans Siméon. Ce n'est qu'après de longs mois, peut-être une année, une fois que les provisions sont épuisées, que Jacob finit par accepter de laisser partir Benjamin avec ses frères. C'est le texte que nous avons considéré la dernière fois. Et vous vous souvenez tout ce que nous avons dit sur Jacob, et en particulier le fait qu'il était pétrifié à l'idée de perdre Benjamin, comme il avait perdu Joseph. Benjamin, le seul lien vivant, le rattachant à Rachel, son épouse bien-aimée, et à Joseph, son fils qu'il chérissait, tous les deux, maintenant disparus depuis longtemps. Ruben et ses frères s'apprêtent donc à partir en Égypte, à retourner en Égypte, mais ils ne le font pas sans appréhension. En effet, souvenez-vous qu'ils avaient chacun découvert à l'entrée de leur sac de grains l'argent qu'ils avaient utilisé pour acheter le blé. Et cette découverte les avait remplis de crainte. Ils ont été accusés d'espionnage. Seront-ils accusés de vol? Est-ce que cette découverte pourrait avoir des répercussions sur l'emprisonnement de Siméon? Ils sont saisis de crainte. Et c'est certainement plein d'appréhension qu'ils s'apprêtent à retourner en Égypte. Et nous allons maintenant, continuer la suite du récit, je reprends la lecture. Nous sommes dans Genèse au chapitre 43 et je commence la lecture au verset 15. Genèse chapitre 43, verset 15. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux le double de la somme d'argent nécessaire, ainsi que Benjamin. Ils descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, « Emmène ces hommes à la maison, tue les bêtes et prépare-les, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » L'homme fit ce que Joseph avait dit. Il les emmena chez Joseph. Lorsqu'on les emmena chez Joseph, ils eurent peur. Ils dirent, s'ils nous emmènent, c'est à cause de l'argent qui a été remis la première fois dans nos besaces. Ils vont se précipiter sur nous, se jeter sur nous et nous prendre comme esclaves avec nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph pour lui parler. À l'entrée de la maison, ils dirent « Pardon, mon Seigneur, mais nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter des vivres. Puis lorsque nous sommes arrivés au campement et que nous avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent à l'ouverture de sa besace, exactement le poids de notre argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons rapporté avec nous de l'argent en plus pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. » Il répondit, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui a mis un trésor dans vos besaces. Votre argent m'est bien parvenu. » Et il fit sortir Siméon vers eux. L'homme les fit entrer chez Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car ils avaient appris qu'il allait manger là. Quand Joseph arriva chez lui, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient. « Votre vieux père dont vous m'avez parlé, va-t-il bien? Est-il encore en vie ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, va bien. Il est encore en vie. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Il leva les yeux et voyant Benjamin, son frère, le fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre petit frère, celui dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Joseph coupa court, car il était ému de voir son frère, et il avait envie de pleurer. Il sortit dans une autre pièce et se mit à pleurer. Après s'être lavé le visage, il ressortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez le repas. » On le servit, lui à part, ses frères à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui encore à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une abomination pour l'Égypte. Les frères de Joseph s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son jeune âge. Ils se regardaient les uns les autres avec stupeur. Joseph leur fit porter des portions de ce qui était devant lui. La portion de Benjamin faisait bien 5 fois leur portion à eux tous. Ils burent avec lui jusqu'à l'ivresse. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, ce dernier verset. Ce n'est pas les mains vides que les frères de Joseph repartent en Égypte. Dans le texte que nous avons considéré la dernière fois, nous avions lu ceci, les versets 11 et 12, de ce même chapitre. Israël, donc Jacob, leur père, leur dit, « Puisqu'il en est ainsi, faites donc ceci, prenez dans vos récipients des spécialités du pays et apportez-les en présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous le double de la somme d'argent nécessaire. Rapportez l'argent qu'on avait remis à l'ouverture de vos besaces. C'était peut-être, par inadvertance. » Ces cadeaux ne sont sans doute que le béaba de la courtoisie de l'époque. Sans doute faut-il y voir aussi le désir de bien faire, le désir de s'assurer les faveurs de ce haut dignitaire, ou en tout cas de ne pas s'attirer ses foudres ou sa défaveur, de faire bonne impression. Et puis, quoi de plus normal? C'est donc chargé de cadeaux et avec l'argent du premier voyage qu'ils se présenteront devant le gouverneur d'Égypte. Comme nous l'avons déjà évoqué, rappelé ce matin, c'est très certainement plein d'appréhension, de crainte et peut-être même d'angoisse qu'ils retournent en Égypte. Quel accueil recevront-ils? Seront-ils accusés de vol ? Seront-ils à nouveau jetés en prison ? Simon sera-t-il libéré ? A-t-il survécu à ces mois, cette année d'emprisonnement ? Est-il encore en vie ? Celui qui les a accusés d'espionnage, va-t-il comprendre leurs explications au sujet de l'argent qui était dans leur sac ? Je pense que Ruben et ses frères ne devaient pas en mener large quand ils sont arrivés en Égypte et qu'ils se sont présentés devant Joseph. Contre toute attente, au verset 16, Joseph, en voyant Benjamin, dit le texte, fait inviter ses frères pour le repas de midi. Et il donne l'ordre à son intendant de tout préparer, de les conduire chez lui et de faire ce qu'il faut pour préparer le repas de midi. Certainement que Joseph devait guetter leur retour depuis des mois. Combien de fois Joseph a-t-il scruté les visages de tous ces étrangers qui se succédaient à la queue leu-leu pour venir acheter des provisions en Égypte ? Combien de fois s'est-il mis dans le bon angle pour regarder si ses frères était de retour et puis surtout si Benjamin allait les accompagner. Allait-il seulement revenir ? Allait-il finalement abandonner Siméon comme il l'avait abandonné lui ? Et voilà qu'il se présente enfin devant lui. Et Benjamin est là lui aussi. Le test va pouvoir continuer. On peut facilement imaginer que cette invitation à partager le repas de ce haut dignitaire a dû complètement prendre de court les frères de Joseph. Je suis même persuadé que ce scénario ne faisait pas partie de tous les scénarios qu'ils avaient pu envisager, qu'ils avaient imaginé, qu'ils avaient ressassé dans leur tête pendant les semaines passées, voire les mois passés. Ils avaient certainement espéré le meilleur, imaginé le pire. Mais ce qui était en train de se passer était au-delà de ce qu'ils avaient pu, de ce qu'ils auraient pu imaginer, envisager. On rappelle quand même que la dernière fois, ils les avaient fait jeter en prison pendant 3 jours et accusés d'espionnage. Prison dans laquelle Siméon est toujours en train de croupir. Il est donc probable que cette invitation complètement inattendue ait amplifié leurs craintes. Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Qu'est-ce que tout cela cachait ? Il ne pouvait y avoir qu'anguille sous roche. Ça ne pouvait être qu'un piège. Un piège qui allait bientôt se refermer sur eux. Un piège qui était forcément en lien avec l'argent qu'ils avaient retrouvé dans leur sac. C'est ce que nous comprenons clairement au verset 18. Lorsqu'on les emmena chez Joseph, ils eurent peur, dit le texte. Ils dirent, s'ils nous emmènent, c'est à cause de l'argent qui a été remis la première fois dans nos besaces. Ils vont se précipiter, se jeter sur nous, nous prendre comme esclaves avec nos ânes. Il est clair que Ruben et ses frères n'ont pas la conscience tranquille. Ils imaginent le pire. Et le pire, à ce moment-là, s'apparente, curieusement ou pas, étrangement, à ce qu'ils ont fait subir à Joseph. On va faire d'eux des esclaves. Et c'est ainsi que les frères de Joseph se sentent obligés de parler avec l'intendant de la maison. Ce qu'ils lui disent s'apparente plutôt, je trouve, à une sorte de confession. C'est une espèce de confession spontanée qui traduit leur conscience chargée. J'ai même envie de dire leur conscience surchargée. Je relis les versets 19 à 22. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph pour lui parler à l'entrée de la maison. Ils dirent « Pardon, mon Seigneur !» Ils ne sont même pas encore rentrés dans la maison. On voit l'état d'anxiété qu'est le leur. mais nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter des vivres. Puis lorsque nous sommes arrivés au campement et que nous avons ouvert nos besaces, chacun a retrouvé son argent à l'ouverture de sa besace, exactement le poids de notre argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons apporté avec nous de l'argent en plus pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. J'ai envie de dire les pauvres. Ils sont dans leurs petits souliers. Ils n'emmènent pas large. Ils sont pleins de crainte et on le comprend. Peut-être et même sont-ils tout tremblants en parlant ainsi avec l'intendant. Et contre toute attente, contre toutes leurs attentes sans doute, les paroles de l'intendant sont des paroles apaisantes, des paroles pleines de compréhension. Ce qu'il leur dit est extraordinaire. Il les rassure, il les apaise. Littéralement dans le texte, il dit « shalom ». On connaît tous le sens de ce mot. « Shalom ». Et puis au-delà des paroles de paix, il y a surtout la référence à Dieu qui est extraordinaire. Il répondit, « Soyez tranquilles, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui a mis un trésor dans vos besaces. Votre argent m'est bien parvenu. » C'est le verset clé de notre texte. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père. C'est un Égyptien qui dit ça. C'est un païen. Et c'est lui qui rend témoignage au vrai Dieu. À n'en pas douter, Joseph doit y être pour quelque chose. Mais n'empêche que c'est extraordinaire. Et puis ce qui est surtout notable ici, c'est que ce que dit l'intendant de Joseph, eux, les frères de Joseph, ils ne l'ont jamais dit. À aucun moment, nous n'avons cette compréhension des choses dans la bouche des frères de Joseph ou dans la bouche de Jacob. L'intendant a une compréhension de Dieu et de son action qu'ils n'ont pas. Apparemment, puisque ce n'est pas marqué dans le texte biblique, pas eu jusqu'ici. Jamais ils n'ont vu cet argent dans leur sac comme une bénédiction de Dieu pour eux, comme la main de Dieu agissant pour leur bien. Ils ont eu toutes sortes d'autres explications, mais pas celle-ci. Souvenez-vous, verset 42, chapitre 42, verset 28, ils ont pensé que Dieu leur tendait un piège. Il, un des frères, dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, il est encore dans ma besace. » Alors le cœur leur manqua. Ils se mirent à trembler et se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Quel sale coup est-ce que Dieu est en train de nous faire ?» Ils ont pensé que Dieu leur tendait un piège. Verset 43, chapitre 43, verset 12. Ils ont imaginé que leur argent était arrivé là par inadvertance. Erreur d'aiguillage, c'est pas allé dans la bonne caisse, c'est retourné dans leur sac. Nous l'avons lu. Prenez avec vous le double de la somme d'argent, c'est Jacob qui parle. Rapportez l'argent qu'on avait mis à l'ouverture de vos besaces, c'était peut-être par inadvertance. Bon, Dieu n'a rien à voir avec ça. Comme ça, un coup du hasard. Et puis, dans le texte que nous sommes en train de lire, chapitre 43, verset 22, ils viennent tout simplement de dire, de confesser, d'affirmer qu'ils ne savent pas d'où vient cet argent et qui a remis cet argent dans leur besace. C'est ce verset 22. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. Ils ne savent pas, mais l'intendant de Joseph, lui, le sait. C'est extraordinaire. L'intendant de Joseph, lui, le sait. Il affirme que c'est Dieu le Dieu de votre père qui a mis un trésor dans leur besace. Il affirme que c'est Dieu qui les bénit. Il affirme la souveraineté de Dieu sur leur vie. Il affirme et voit ce qui aurait dû être une évidence pour eux. Et pas pour lui, l'étranger, le païen. C'est pas lui qui aurait dû avoir cette compréhension des choses. Alors ce point m'a interpellé et continue de m'interpeller. Il me rappelle combien il est parfois difficile pour moi, peut-être pour vous aussi, de voir ce qui devrait être évident pourtant pour les yeux de la foi. Il est si facile dans nos vies de tout rationaliser. On aime bien ça en France en plus, de rationaliser. On est très cartésien, on explique tout, on comprend tout. C'est tellement facile de toujours tout rationaliser. Si facile de tout expliquer autrement qu'avec Dieu. Si facile d'être si préoccupé par nos soucis, parfois simplement par le quotidien de notre vie, que nous manquons de voir l'évident. Dieu qui agit dans notre vie. Dieu qui agit dans la vie de nos proches. Dieu qui agit et nous, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons plus. Parfois ce sont les soucis, les préoccupations qui obstruent nos yeux. C'est possible. Parfois c'est peut-être notre culpabilité. C'était peut-être le cas ici pour les frères de Joseph. Notre mauvaise conscience qui nous empêche d'avoir le bon regard, qui nous empêche de voir. Parfois, c'est simplement notre incrédulité qui nous aveugle. Et nous devrions alors nous écrier comme ce père dans les évangiles qui dit à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça, c'est un verset incroyable. Je crois, il ne dit pas je crois pas, il dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui Seigneur, je crois, et pourtant j'ai quand même besoin que tu viennes régulièrement au secours de mon incrédulité. Pourquoi ? Parce que en moi tout n'est pas toujours blanc ou noir, sainteté ou péché, bon ou mauvais. En moi les choses sont beaucoup plus mêlées que ça. Et j'aurais même envie de dire entremêlé très souvent. Le meilleur côtoie souvent le moins bon et parfois même le pire dans ma propre vie. Notre vieil homme, que nous aimerions bien enterrer une fois pour toutes, se trouve être plein de ressources, jour après jour. Et il nous mène la vie dure. Et là, il mène la vie dure à cette nouvelle nature que nous avons héritée, reçue de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons, nous devons faire nôtre cette prière des évangiles. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de nos aveuglements. Fais-nous voir ce que nous devrions voir dans nos vies et que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus. Fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous te voyions agir dans notre vie. Pour que nous puissions voir ta main bénissante, ta main secourante, ta main nourrissante, ta main protégeante, ta main agissante. Que Dieu nous garde d'être aveugles à ses bienfaits. Que Dieu nous garde de banaliser ce que sa main nous donne au point de ne plus le voir dans notre vie. C'est tellement normal d'être au bénéfice des bénédictions de Dieu. Non, mes amis, ce n'est pas normal. C'est une grâce extraordinaire qu'il nous arrive de ne plus voir. Que Dieu nous accorde de comprendre ses voies et son action, sa souveraineté bienveillante dans notre vie. L'intendant répondit, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu. Le Dieu de votre Père qui a mis un trésor dans votre sac, dans vos besaces. Votre argent m'est bien parvenu. » Après Après les paroles bienfaisantes et bienveillantes de l'intendant, nous lisons que Siméon est libéré. Rien n'est dit de leurs retrouvailles, ni de leurs étreintes qui, très certainement, ont été fortes en émotion. Puis tous se préparent à rencontrer et à manger avec cet énigmatique gouverneur d'Égypte. Quand Joseph arrive, il lui donne des cadeaux, les cadeaux qu'ils ont préparés, et il se prosterne à nouveau devant lui. Et ainsi, à nouveau, ils accomplissent les rêves que Joseph avait faits dans son enfance. Ces rêves qui avaient suscité tellement de jalousie, tellement de haine, qui avaient conduit les frères de Joseph à le vendre comme un esclave. Et voilà qu'à nouveau s'accomplissent ces rêves de Joseph. Très vite, Joseph leur pose des questions. Il leur demande comment ils vont. Et puis surtout, il leur demande comment va leur vieux père. Des questions qui auraient pu les intriguer. Mais ils sont bien trop remplis de crainte, certainement, pour réfléchir avec lucidité à tout ce que cet intérêt de ce haut dignitaire pourrait signifier. Et puis enfin arrive le moment où Joseph focalise son attention sur Benjamin. Verset 29, « Est-ce là votre petit frère, celui dont vous m'avez parlé ?» Il sait très bien qui c'est, hein, bien évidemment. Joseph poursuit son numéro de haut vol, son numéro d'équilibriste, de funambule. Et il ajoute que Dieu te fasse grâce, mon fils. Que Dieu te fasse grâce, mais c'en est trop. C'en est trop, et à ce moment-là de l'histoire, Joseph ne peut plus contenir ses émotions. Il y a un moment où même les plus forts, même les plus solides, même les meilleurs comédiens sont rattrapés par leurs émotions. Et Joseph, qui est sur le point de fondre en larmes, doit sortir précipitamment pour ne pas pleurer, craquer, se dévoiler à cet instant devant ses frères. On peut imaginer qu'il est sorti sans rien dire et qu'ils se sont tous demandé ce qui s'est passé. Ils se sont tous regardés en se demandant ce qu'ils avaient mal fait. Sans doute que leur crainte a repris quelques points. Hein. Ils ont dû vraiment se poser des questions. Est-ce qu'ils avaient mal agi, dit une bêtise, manqué à l'étiquette, à leur devoir? En tout cas, très certainement que cette sortie de Joseph ne les a pas rassurés. Que ces moments ont dû être forts en émotion pour Joseph en particulier. Après toutes ces années d'exil, pour ses frères, pour d'autres raisons, hein, mais Joseph, lui, il sait très bien tout ce qui se passe. Après toutes ces années d'exil, après toutes ces années de souffrance, de solitude, d'emprisonnement, d'esclavage, il y a eu des choses positives aussi, mais il y a eu aussi toute cette souffrance pendant toutes ces années loin des siens, loin de ceux qu'il aime. Et voilà qu'ils sont là. Tout près, il pourrait les toucher s'il voulait. Il pourrait les embrasser s'il voulait. Il pourrait se mettre à pleurer avec eux et les prendre dans ses bras s'il voulait. Benjamin, qu'il n'a pas revu depuis une vingtaine d'années, est là, son petit frère, son frère de sang, le seul de ses frères à qui il n'a rien à reprocher, est là et il doit se retenir pour ne pas lui sauter au cou et le prendre dans ses bras. Le moment viendra, mais ce n'est pas encore le moment pour cela. Dans l'immédiat, c'est l'heure de passer à table. Et il faudrait dire « aux tables », car il n'était pas question pour un Égyptien de manger avec un Hébreu. Et donc, on a ce tableau assez drôle, hein, où en final il y a trois tables dans la même pièce, enfin trois groupes, Joseph tout seul à une table, les frères de Joseph toujours stupéfaits, dit le texte, hein, parce qu'ils sont assis dans l'ordre. Alors est-ce que c'est Joseph qui les a fait asseoir dans le bon ordre et ils se disent mais comment est-ce qu'il sait? C'est peut-être ça, parce qu'après, dans la suite du texte, il est question de divination avec la coupe, donc Joseph joue peut-être aussi un peu là-dessus. En tout cas, ils sont complètement stupéfaits de tout ce qui arrive. Et puis, les proportions, la portion disproportionnée qui est donnée à Benjamin, enfin, tout ça fait qu'ils sont stupéfaits, dit le texte. Et puis, à une troisième table, les autres Égyptiens qui étaient présents pour le repas. Ils mangent chacun dans leur coin, mais bientôt, Joseph et ses frères pourront partager le repas, pourront partager la même table. Mais cette heure n'est pas encore arrivée. Cette heure n'est pas encore arrivée parce que ce qui est en train de se jouer là, tout ce qu'on vient de dire ce matin, n'est en réalité que le deuxième acte des retrouvailles. Ce n'est pas encore l'acte final. L'acte final viendra par la suite. En réalité, il viendra le lendemain. Donc c'est pour bientôt. Demain matin, Joseph va porter l'estocade. Demain, le test va prendre fin. Demain, il va les obliger à se dévoiler complètement. Il va les obliger à tomber les masques. Ils seront tellement le dos au mur qu'ils n'auront pas d'autre choix de révéler véritablement ce qu'ils sont. Et alors Joseph saura s'ils ont changé ou pas. Alors Joseph saura s'il peut se faire connaître à eux ou pas. Mais ça, c'est pour demain. Et pour nous, c'est pour la prochaine fois. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.